Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans ces carnets d'été. On profite de ces quelques semaines de vacances pour se replonger dans les actus fortes de cette saison. Réécouter certains des grands reportages que la rédaction d'Europe 1 a mis en onde cette année. Et on va démarrer avec les bouleversements profonds provoqués aux États-Unis par la mort de George Floyd à la fin du mois de mai. Une vague d'indignation et de colère qui révèle cette fracture jamais comblée entre les Africains-Américains, les Noirs et les Blancs. Mais cette fois, beaucoup espèrent que quelque chose va changer.
Je ne pense pas qu'il soit mort pour rien, parce que c'est le début d'une chose différente. Ça fait longtemps qu'on se bat, mais cette fois c'est différent, parce qu'il n'y a pas que les Noirs qui sont en colère. Tout le monde vient avec nous, nous avons des alliés blancs, et eux, on les écoute, l'Amérique les écoute. Ils doivent se lever.
On retraversera ensuite l'Atlantique pour se poser en Grande-Bretagne. Car 2020 aura été pour de bon l'année du Brexit. On écoutera ce que ça provoque en Écosse, très attachée, on le sait, à son ancrage européen. Et puis on se souviendra des adieux des députés britanniques à Bruxelles, quelques jours avant le 31 janvier.
J'ai le cœur brisé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai lutté contre le Brexit jusqu'à la fin, c'est-à-dire le 12 décembre dernier. Ça fait à peu près un mois. Je suis encore dans la colère et la tristesse. Mais il va falloir que je trouve des moyens de m'ajuster à la réalité.
L'égalité homme-femme, c'est un autre sujet récurrent, de plus en plus présent dans l'actu, avec le mouvement MeToo bien sûr, mais pas seulement. Aujourd'hui, on retournera dans un pays d'Afrique qui nous avait épatés par son audace et son avance en matière de féminisme. C'est le Rwanda. On y trouve même des associations qui dispensent des petits cours dans les villages pour inciter ces messieurs à prendre leur part dans la vie du foyer.
Je ne pouvais pas imaginer un jour aider ma femme comme ça. Mes voisins n'ont pas cru que j'avais changé. Ils ont commencé à dire que j'étais dominé par ma femme et qu'elle m'avait ensorcelé.
Ensorcelé pour de vrai, ce sont plutôt les Mexicains qui n'en finissent pas de s'en prendre aux femmes. 9 féminicides en moyenne par jour là-bas et si peu de réactions des autorités.
J'ai porté plainte, mais ils finissent par nous faire sentir coupables. Comme ce policier qui m'a demandé pourquoi je n'ai pas crié, pourquoi je n'ai pas essayé de m'échapper. J'aurais pu essayer de me battre contre eux, effectivement. Mais ce que je voulais avant tout, c'était en sortir vivante.
On entendra en particulier combien monter dans un taxi peut s'avérer dangereux pour une femme à Mexico. Enfin, bien sûr, on terminera notre vadrouille par un petit détour en Autistan avec Joseph Chovanec. Les carnets d'été sont ouverts. Direction Minneapolis et New York.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
C'était une bavure. Fin mai, à Minneapolis, aux États-Unis, un homme noir meurt étouffé sous le genou d'un policier blanc. Une bavure de plus, comme celles qui font régulièrement descendre dans la rue les Noirs américains. Mais cette fois, c'est peut-être différent. La mort de George Floyd a pris une dimension très spéciale. Les manifestations ont dépassé les frontières du pays, mais même au cœur des États-Unis, l'émotion nationale a semblé bien plus forte que les fois précédentes, comme une prise de conscience. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on réentende ce reportage tourné par notre correspondant Xavier Yvon. C'était 2 semaines après la mort de George Floyd. Xavier avait suivi les manifs de Minneapolis, celles de New York, les obsèques de Floyd aussi à Houston, aux allures de funérailles nationales. Et il avait d'abord été frappé par la force de cette colère, cette émotion qui a gagné tout le pays.
C'est vrai que ce que j'ai vu, c'est de l'émotion à vif, des gens qui se mettent à pleurer au micro ou alors qui ont de la rage dans la voix. Et franchement, depuis que je suis aux États-Unis, j'avais jamais vu de telles émotions s'exprimer à Minneapolis comme à New York, même 10 jours après la mort de George Floyd. Et c'est sa dernière phrase qui est devenue le cri de ralliement partout dans le pays.
I can't breathe.
We can breathe.
We can breathe.
Je ne peux plus respirer, on voit ça écrit par terre, sur les murs, sur les t-shirts et même sur les masques anti-coronavirus. Et l'endroit où on sent le plus ce qui est en train de se passer dans la population américaine, c'est ce carrefour de la 38e rue et de Chicago Avenue à Minneapolis. Il y a des fleurs, des dessins et des bougies qui s'accumulent sur le bitume, là même où George Floyd est mort étouffé sous le genou du policier blanc. C'est une sorte de mémorial d'agora où on alterne recueillement, discours, cris de révolte, ambiance de kermesse avec des stands de nourriture gratuite, de la musique. Et c'est là que j'ai rencontré Tonya Mitchell. Elle est venue exprès de New York pour fouler ce qu'elle appelle un sol sacré.
Pouvoir marcher dans cette rue où il a perdu la vie, ça me fait passer des larmes, à la colère, à la rage et encore aux larmes. Mon fils a 34 ans et je l'appelle tous les soirs pour être sûr qu'il est rentré sain et sauf chez lui. Parce que j'ai peur qu'il soit arrêté, qu'il se fasse tirer dessus, ou écrasé, ou étouffé, ou... Ils ont des tas de manières de nous tuer. J'ai 3 petits-fils. J'ai dû leur parler à eux aussi. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes arrêté par la police? Je ne peux pas leur dire, vous obéissez, vous vivez, parce que des gens obéissent et ils meurent. Je ne peux pas leur dire, courez, parce que des gens courent et ils meurent. Je ne peux pas leur dire, mettez vos mains en l'air, parce que des gens meurent les mains en l'air. En ce moment, je ne sais vraiment pas quoi dire à mes petits-fils. Tout ce que je peux faire, c'est les appeler pour être sûr qu'ils vont bien. Je ne veux pas que mon fils ou mes petits-fils deviennent un hashtag. Je ne veux pas. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Et ça commence par demander des comptes à la police qui tue des Noirs.
Waouh!
Oui, voilà, on entend toute cette émotion, hein, colère, larmes chez Tonya. Et c'est pas nouveau, hein, c'est toujours la même histoire. Elle manifeste depuis le tabassage de Rodney King dans les années 90. Elle rappelle qu'il y a eu aussi Eric Garner à New York, là où elle habite. Il a été tué il y a 6 ans par la police, lui aussi, en disant les mêmes mots, je ne peux plus respirer.
Mais alors en quoi espère-t-elle que cette fois, il y aura du changement?
Tonya estime que cette fois, il y a une nouvelle union dans les rassemblements. Elle voit à ses côtés qu'il n'y a pas que des Noirs qui manifestent.
Je ne pense pas qu'il soit mort pour rien, parce que c'est le début d'une chose différente. Ça fait longtemps qu'on se bat, mais cette fois c'est différent, parce qu'il n'y a pas que les Noirs qui sont en colère. Tout le monde vient avec nous. Nous avons des alliés blancs et eux, on les écoute. L'Amérique les écoute. Ils doivent se lever. Vous ne pouvez pas me dire que vous comprenez ce que je ressens de voir des Noirs tués et ne pas venir en première ligne. Quand on vous entend dire « Oh mon Dieu, je suis désolée », non, on veut vous voir à nos côtés parce qu'ils vous écoutent, vous. Nous, ils ne nous entendent pas.
Et c'est vrai que des Blancs, Xavier, vous en avez croisé beaucoup dans les manifs.
Ah oui, énormément. Alors, probablement autant que des Noirs, c'est difficile de faire des proportions, mais aussi bien à Minneapolis qu'à New York. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de pancartes avec ces deux messages principaux. « White silence is violence », c'est-à-dire le silence des Blancs, c'est de la violence, ou aussi utiliser votre privilège blanc. Et c'est ce que fait d'ailleurs le jeune Stu qui est venu à Minneapolis se servir de sa couleur de peau comme d'un bouclier pour les manifestants noirs.
Les blancs, nous avons le privilège de cette protection supplémentaire. Vous êtes blanc, le flic est blanc, le flic vous voit comme un humain, il ne pense pas forcément ça d'un noir. Donc c'est essentiel d'être là aujourd'hui. Avoir des blancs sur le terrain, ça fait que la police hésitera plus avant de tirer ou de blesser des gens. La rhétorique qui est utilisée, c'est de dire que quand des noirs sortent dans les rues, c'est des émeutes. Quand c'est des blancs, c'est une manifestation.
Et parmi les images de cette union qui m'ont marqué, il y a celle de ce couple de retraités blancs agenouillés de longues minutes devant le mémorial improvisé pour George Floyd. Ils étaient en train de pleurer. Il y a un jeune noir qui est venu les prendre par l'épaule et puis qui s'est levé à côté d'eux avec le poing dressé en silence. Une image vraiment très très forte. Et je suis après allé interroger ces retraités. Et voilà ce que Lynn et Jim Jackson m'ont raconté.
Nous sommes des personnes qui avons été privilégiées toute notre vie. Et nous nous sentons vraiment mal en pensant à tous ces gens qui n'ont pas grandi avec la même chance. Nous voulons sortir de notre bulle de blanc.
Nous n'habitons pas très loin d'ici, mais quand même, nous vivons avec une vision du monde différente. Et ça n'a pas aidé les gens de ce quartier que nous ayons cette vision du monde. Nous avons cru que nous avions ce que nous avions parce que nous avons travaillé dur pour ça. Il y a du vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Nous possédons une maison avec beaucoup de valeur parce que nous avons pu avoir un crédit immobilier, parce que mes parents ont pu avoir un crédit immobilier dans les années 60, alors que les familles des gens de ce quartier n'y ont pas eu droit. Ils ont été écartés, des générations discriminées, et ce n'est pas juste. Je pense que mes parents étaient d'accord avec Martin Luther King à l'époque. Mais ils n'ont rien fait, ils avaient peur de ce que diraient leurs voisins. Et maintenant, je pense qu'il nous incombe de dire les choses et de parler à nos enfants. Il est temps pour les gens comme nous de se réveiller.
Et encore, Lynn et Jim sont déjà très conscients du problème. Ils ont même déménagé de leur banlieue blanche aisée pour s'installer dans un quartier plus métissé. Mais ils veulent s'engager plus, changer leur attitude, ne plus faire partie de ce système, comme ils disent, qui a permis ce qui s'est passé avec George Floyd.
Ouais, donc on a bien compris, hein, c'est une mobilisation multiraciale et c'est une grande différence. Mais comment expliquer quand même que cette mort-là de George Floyd ait déclenché un tel mouvement à travers tout le pays.
Bah, cet événement, c'est ce qu'on appelle ici une perfect storm, une tempête parfaite. C'est une conjonction de facteurs qui font que ça éclate d'un coup. Alors d'abord, il y a l'événement en lui-même. La vidéo de l'agonie de George Floyd est insoutenable, sans ambiguïté, 8 minutes 46, terrible d'ailleurs, c'est 8 minutes 46, c'est souvent le temps de silence dans les rassemblements. Et la vidéo, elle revient énormément dans les conversations, elle est même rejouée parfois dans les rassemblements, comme Michael par exemple qui parle à un groupe de jeunes.
Fermez les yeux, imaginez-vous à terre en train de dire « je ne peux pas respirer ». Et les gens sont là, ils regardent. Imaginez-vous allongé, ici, là. C'est comme si vous étiez en train de vous noyer sous l'eau et vous n'arrivez pas à reprendre de l'air. Vous suffoquez, vous mourrez lentement. Allez revoir la vidéo. Ce frère a été tué. En plein jour, comme un chien.
Voilà cette vidéo donc qui est rejouée dans les manifestations. Quels sont les autres facteurs, Xavier ?
Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine pandémie et elle a fait ressortir au grand jour les inégalités dont sont victimes les Noirs aux États-Unis. D'abord, ils ont 2,5 fois plus de risques de contracter le coronavirus que des Blancs et ils en meurent de façon disproportionnée parce qu'ils ont un moins bon accès aux soins. Et aussi, ils sont plus nombreux à avoir perdu leur emploi avec l'arrêt de l'activité économique. Il y avait donc déjà un niveau de désespoir extrêmement élevé chez les Afro-Américains.
C'est pour ça que les manifestations ne s'arrêtent pas ou ne se calment même pas après l'arrestation des 4 policiers.
Écoutez, par exemple, Ellie, qui est un jeune noir que j'ai rencontré dans un rassemblement à Brooklyn, pour lui, même une condamnation des policiers ne sera pas suffisante.
Ça va demander bien plus que ça, mec. C'est pas seulement la police, c'est les institutions racistes qui contrôlent cette société. C'est ancré dans l'histoire de ce pays, c'est dans les banques, les médias, la santé, la technologie, c'est partout putain. Ça me rend malade et je manifesterai jusqu'à ce qu'ils passent des lois pour démanteler ce système. Ce système préhistorique qui ne sert pas les nouveaux visages de l'Amérique. C'est ça qu'on demande, ça marche plus.
Vous l'entendez, la mort de George Floyd a donc été un catalyseur de tous les maux des Noirs américains. D'ailleurs, il en est le symbole presque parfait. George Floyd a été victime des violences policières, il en est mort, mais aussi des inégalités économiques. Il avait été viré de son emploi avec la crise et l'autopsie a révélé qu'il avait également été infecté par le coronavirus.
Et maintenant, Xavier, on fait quoi ?
C'est toute la question que se posent Lynn, Jim, Tonya, Ellie et les autres. Ils ne veulent pas que ça passe cette fois comme les autres morts. Alors il y a un grand rendez-vous déjà fin août pour une marche sur Washington pour rejouer celle de 1963 où Martin Luther King avait prononcé son fameux discours « I have a dream ». Ça va être un moment extrêmement important et fort. Et puis il y a une autre étape. L'un des frères de George Floyd a donné la marche à suivre. Il faut voter. Nous sommes très nombreux, a-t-il dit. Éduquez-vous et votez pour toutes les élections de la plus petite à la plus grande. La plus grande, c'est la présidentielle dans 5 mois et la mobilisation de l'électorat noir pourrait être décisive.
Voilà pour ce reportage très complet de Xavier Yvon sur cet épisode qui aura marqué l'année. L'une des revendications beaucoup entendues aussi dans les manifs, c'est que les énormes budgets investis dans les forces de police le soient plutôt dans les quartiers difficiles, notamment pour financer les écoles publiques et les programmes sociaux. Et donc on verra le 28 août, dans un mois, quelle sera la mobilisation pour cette grande manif annoncée. 57 ans jour pour jour après la marche pour l'emploi et la liberté emmenée par Martin Luther King. À suivre, un autre enjeu de notre temps, l'égalité entre les hommes et les femmes. On va aller au Rwanda.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est une revendication qu'on retrouve un peu partout dans le monde, plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Plusieurs reportages y étaient consacrés dans les carnets du monde le 8 mars dernier, journée internationale des droits des femmes.
On a notre petite idée préconçue sur les pays où, mieux qu'ailleurs, on tend vers l'égalité entre les hommes et les femmes. On pense souvent aux pays nordiques, par exemple. Et on pense rarement au Rwanda, ce pays d'Afrique qui a subi un génocide en 1994. Et pourtant, on devrait. 49 des 80 députés rwandais sont des femmes. Et ce n'est pas un hasard, on va l'entendre. Notre correspondante Margot Chevance nous avait emmenés à Nombé, un village à 2 heures de la capitale, pour y découvrir le travail d'une association créée par des hommes pour inciter ces messieurs à prendre leur part du job dans la famille. Voici son reportage.
Sur le perron de leur petite maison de terre, nichée sur le flanc de la colline entre les bananeraies, Valence Nyanouille accueille sa femme, Eugénie.
Comment va notre fils et que t'as dit le médecin ?
On lui a diagnostiqué le paludisme.
Passe-moi son pull, il commence à faire froid. T'en fais pas, Brian, tu vas guérir, ok ? Passe ton bras ici, dans la manche.
L'homme attache avec précaution son enfant dans son dos, un geste dont il n'avait pas l'habitude. Son épouse l'encourage du regard. Auparavant, ce couple vivait dans la violence jusqu'à ce qu'il suive le programme d'une ONG locale, Rwamrek, qui enseigne l'égalité. Depuis, leur quotidien n'est plus le même.
Je n'avais jamais fait ça avant. Je considérais que ça n'était pas mon devoir. Mais ma vision maintenant a changé. L'éducation de mon enfant me concerne aussi. Et je suis très fier de le porter dans mon dos et d'aider mon épouse dans des tâches que je considérais avant comme uniquement réservées aux femmes.
Pour en arriver là, ces deux trentenaires ont suivi assidûment 17 séances de formation. Valence a appris à s'occuper de son foyer, à s'investir. Des études menées par l'ONG rwandaise montrent que si l'homme valorise le travail que fait sa femme à la maison en y participant, la perception qu'il a d'elle change.
Préparons plutôt des légumes et la sauce pour le déjeuner. Le haricot, c'est trop long à cuire.
Oui, tu as raison.
La cuisine, Valence n'y avait jamais mis un pied. Mais ce matin, c'est lui qui attise le feu sous la casserole d'eau bouillante et lave les couverts.
Je ne pouvais pas imaginer un jour aider ma femme comme ça. D'ailleurs, au début, mes voisins n'ont pas cru que j'avais changé. Ils ont commencé à dire que j'étais dominé par ma femme et qu'elle m'avait ensorcelé.
Une plaisanterie qui fait sourire Eugénie, mais qui n'efface pas pour autant les souvenirs de maltraitance.
Mon mari me forçait à avoir des relations sexuelles avec lui. Il me frappait, très souvent, et prenait tout l'argent que je gagnais. Je m'occupais de nos enfants toute seule. Je faisais toutes les tâches ménagères, mais aujourd'hui, tout a changé. Nous prenons toutes les décisions concernant notre famille ensemble. Et quel soulagement qu'il m'aide à la maison. Tout se passe enfin très bien. Et ça a aussi permis d'améliorer les conditions de vie de toute la famille.
Dans le village voisin de Ngendo, débute un atelier de sensibilisation contre les violences conjugales. Une centaine de personnes serrées les unes contre les autres dans la petite salle communale ont les yeux rivés sur un homme, Viateur Munyemana. Comme Eugénie et Valence, ce quarantenaire a suivi le programme pour l'égalité de l'ONG Rwamrec.
Dans une vie de couple, l'homme et la femme doivent s'entraider à la maison et ailleurs. Que pensez-vous de cette affirmation ?
Avant, il y avait des tâches uniquement pour les femmes et d'autres pour les hommes. Il y avait aussi beaucoup de tabous envers les femmes. Dans une famille, par exemple, l'homme prenait le vélo alors que la femme devait marcher. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La femme peut monter à vélo et l'homme marcher à ses côtés.
Dans la foule, des affiches circulent. Un homme dessiné avec un bébé dans le dos, un autre qui lave le linge. Des scènes ici plutôt inhabituelles. Ce qui ne décourage pas Viateur, venu partager sa propre expérience.
L'exemple que j'utilise, c'est de raconter comment j'abusais moralement de ma femme. Je lui disais qu'elle n'avait pas le droit de quitter la maison si elle n'avait pas ma permission, ou encore qu'elle ne pouvait pas utiliser ni prêter aux voisins nos affaires sans mon autorisation, comme par exemple nos outils agricoles. Mais je veux aussi que les gens sachent qu'on ne change pas d'un coup. Il y a toujours des réticences dans les mentalités. Donc, j'essaie d'approcher les hommes qui maltraitent leurs femmes, d'être avec eux et de leur montrer la meilleure voie à suivre.
La séance se termine sous les applaudissements. Parmi les villageois, la responsable de la circonscription, Marianne Douchimana, une femme assise au premier rang, comme un modèle de réussite. À Kigali, Margot Chevance, Europe 1.
Voilà pour ce reportage dans un village à 2 heures de route de Kigali, en fait. Avec Margot Chevance, on était ensuite revenu sur la place des femmes au Rwanda, d'abord en remontant un peu dans l'histoire.
D'abord, il faut savoir qu'avant la colonisation belge, les femmes au Rwanda conseillaient les rois. Elles étaient très écoutées, respectées, on les sollicitait beaucoup. Les femmes étaient vraiment au cœur de la culture rwandaise. Ensuite, la colonisation a mis à mal tous ces schémas avec l'arrivée du christianisme et il en a découlé une culture du patriarcat. Mais depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a une révolution lente qui traverse le pays.
Alors ça, c'est peu de temps après le génocide des Tutsis en 1994, qui a fait plus de 800 000 morts, c'était il y a 25 ans.
Exactement, et au lendemain des massacres, la population, elle est composée majoritairement de femmes qui ont été témoins de l'horreur. Et ce sont elles qui retournent les premières aux champs, qui vont labourer la terre, qui apprennent de nouveaux métiers jusqu'ici réservés aux hommes. Dans les années qui ont suivi, il y a eu une série de lois qui rétablissent l'égalité, comme par exemple le droit d'hériter en l'absence de testament qui est voté en 99. Et il y a une dernière chose qui a véritablement renforcé la place des femmes au sein de la société rwandaise, c'est la création en 2002 des gachacha, ces tribunaux communautaires villageois pour juger les crimes du génocide des Tutsis. Alors non seulement 70% des juges étaient des femmes, mais ces tribunaux ont aussi permis de libérer leur parole. Parce que les femmes ont témoigné de ce qui leur était arrivé, le génocide, le viol, la torture, ces tribunaux ont ouvert l'espace public aux femmes pour la première fois et c'est là qu'elles se sont dit que le moment était venu pour prendre leur place.
Et derrière cette révolution que vous décrivez, il y a aussi une volonté politique de favoriser l'inclusion, l'égalité homme-femme et ça c'est déterminant.
Oui, c'est certain. Il y a d'abord un leadership du président Paul Kagame qui encourage la parité. C'est vraiment une politique volontariste qui est complètement assumée. Je dirais presque que c'est sa marque de fabrique. Depuis 2003, la Constitution impose que 30% des postes soient réservés aux femmes dans les instances de prise de décision. Résultat, 49 députés sur 80 sont des femmes. C'est la plus forte participation dans le monde. 4 des 7 juges de la Cour suprême sont aussi des femmes et la moitié du cabinet du président de la République. Il y a en plus un ministère du genre et de la promotion de la famille qui comprend même un département chargé d'identifier les lois discriminatoires contre les femmes et de les amender. Il y avait par exemple une loi qui interdisait à une femme de travailler la nuit et elle a été supprimée.
Ouais, donc c'est vraiment une volonté d'avancer vers l'égalité. Mais j'imagine, Margot, que comme partout il y a des freins, des réticences, tout n'est pas rose.
Non, c'est sûr. Et justement, j'ai rencontré deux jeunes féministes rwandaises, Niki Alonga et Aline Berabose, qui ont créé le premier podcast du pays qui s'appelle Breaking Silences, briser le silence. Et ce qu'elles m'ont expliqué, c'est qu'au Rwanda, eh bien, le silence d'une femme serait sa plus grande qualité, une forme de dignité. Une femme qui parle peu, qui écoute, c'est ce qu'un homme rechercherait, c'est culturel. Donc vous comprenez, c'est difficile de changer les mentalités. Et une dernière chose, l'une d'entre elles participe à un séminaire pour traduire en Kinyarwanda, qui est la langue officielle du pays, des termes liés au féminisme. Car des mots comme féministe ou patriarcat, eh bien, ils n'existent pas aujourd'hui en Kinyarwanda.
De nouveaux mots à créer pour faire émerger un nouveau monde. Le Rwanda, en tout cas, nous donne l'exemple sur cette question. À suivre, un autre moment qui aura marqué l'année, le Brexit, qui a finalement eu lieu.
Europe 1, les carnets du monde.
C'était au tout début de l'année 2020, le Brexit est devenu irréversible, un changement historique sur lequel vous avez donc souhaité revenir, Sophie Larmoyer.
Depuis le premier vote des Britanniques en faveur du Brexit en juin 2016, la question restait posée, le divorce aura-t-il vraiment lieu ? Le feuilleton à rebondissement a duré 3 ans et demi jusqu'aux élections de décembre dernier qui ont sonné comme une deuxième victoire du Brexit, donnant une large avance aux conservateurs et à Boris Johnson. C'est là que l'Europe a vraiment perdu le Royaume-Uni. Et à ce moment-là, l'Écosse, toujours opposée à une sortie de l'Union européenne, s'est remise à penser à voix haute à son indépendance. La première ministre indépendantiste, Nicola Sturgeon, confortée elle aussi par le scrutin, réclamait à Londres de pouvoir organiser un nouveau référendum sur le sujet. Théo Manval était allé prendre le pouls en Écosse et avait constaté que la population était finalement sur la crête, 50-50 pour rester européen ou rester britannique. Écoutez son reportage.
Une foule nombreuse et qui crie sa colère sur Buchanan Street, l'une des artères les plus célèbres de Glasgow. Boris Johnson vient de remporter les législatives à Londres. Sa victoire acte le Brexit et la jeunesse écossaise descend instantanément dans la rue. Car pour nous, rester dans l'UE est un enjeu énorme, dit Stephen, la trentaine, il est banquier à Glasgow et rappelle que l'Écosse a voté à 62% contre le Brexit.
Économiquement, un rapport a dit que ça ferait perdre 100 000 emplois à l'Écosse. C'est juste pas possible quand c'est quelque chose pour lequel on n'a pas voté. Je crois pas qu'il y ait eu un Premier ministre plus détesté en Écosse que Boris Johnson. Il a dit par le passé des choses comme « une livre d'argent public dépensée à Londres est bien plus utile qu'une livre dépensée à Glasgow ». Ça montre tout le mépris qu'il a pour le peuple écossais. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de partir.
quitter le Royaume-Uni pour ne pas rester à l'écart des échanges européens. Voilà ce qui motive cette génération Erasmus, pourrait-on dire, dont fait aussi partie Samantha, enseignante de 29 ans.
J'ai beaucoup voyagé. J'ai moi-même vécu à l'étranger et je crois que l'Écosse a beaucoup progressé dans sa façon de penser, ses ingénieurs, sa médecine, en partie grâce aux échanges avec d'autres cultures. La liberté de mouvement des étudiants, l'apport de migrants très qualifiés aussi. Notre système de santé dépend énormément de l'afflux des médecins venus de l'étranger.
Mais quand on s'éloigne de Glasgow, qui fut l'une des rares grandes villes à voter oui au dernier référendum sur l'indépendance en 2014, on prend conscience des divisions qui règnent encore en Écosse. Au total, à l'époque, le non à l'indépendance l'avait emporté à 55%. Nous voici arrivés par le train dans la banlieue déshéritée de Drumchapel, une population beaucoup plus âgée et marquée par le déclin économique, la fermeture des chantiers navals. Sur le parking du supermarché, on croise Christiane, 83 ans. Qui s'emporte quand on prononce le nom de la première ministre écossaise, l'indépendantiste Nicola Sturgeon.
Je ne veux pas de l'indépendance. On a dit non au premier référendum. Il devait être valide 10 ans. Et ça en fait seulement 4. C'est un mensonge qu'elle nous a raconté.
Et cette fracture entre générations est une réalité. Ce sont les plus de 60 ans qui ont le plus massivement voté contre l'indépendance en 2014. Inquiets surtout des conséquences financières. Evelyn est retraitée de l'administration. Elle a manié des budgets toute sa vie.
On reçoit tellement d'argent du gouvernement central à Londres que je ne pense pas qu'on pourrait survivre sans tout ça. Ils n'arrêtent pas de parler de tout le pétrole qu'il y a en Écosse, mais tout appartient à des compagnies américaines. Ça fait des années que ça ne nous rapporte rien. Les prix s'envoleraient pour tout, les soins de santé, pour les personnes âgées, l'éducation. Donc oui, on vit plutôt bien pour l'instant, mais je ne pense pas qu'on vivrait bien à l'avenir.
L'Écosse reçoit en effet l'équivalent de 16 milliards d'euros du Royaume-Uni chaque année. Mais c'est justement l'argumentaire contre lequel veulent se battre les indépendantistes. La députée Scottish National Party de la circonscription, c'est Carol Monaghan. Hello. Elle nous reçoit chez elle, à un petit pavillon de banlieue, quelques jours après sa réélection.
Vous savez, l'Écosse donne au budget du Royaume-Uni plus que ce qu'elle reçoit. On donne à travers toutes les taxes et après Westminster nous rend notre argent de poche.
Mais vous avez échoué il y a 4 ans à gagner ce référendum d'indépendance. Pourquoi est-ce que vous auriez plus de chances d'y arriver cette fois-ci ?
L'une des choses qui était dite aux gens à l'époque, c'est que rester dans le Royaume-Uni allait protéger notre place dans l'Union européenne. C'est plutôt ironique quand on voit que 2 ans plus tard, on est sorti contre notre volonté. Donc on voit maintenant, et notamment dans cette circonscription, des gens qui avaient voté contre l'indépendance commencer à changer d'avis.
Mais pour cela, il faudrait déjà que ce nouveau référendum ait lieu. Londres n'est toujours pas disposé à donner le feu vert. Le Scottish National Party se prépare à engager une longue bataille juridique. Mais on est prêt à attendre, dit Carol Monaghan. Ça fait déjà 300 ans qu'on patiente. Ça peut bien durer encore un peu. À Glasgow, Théo Manval, Europe 1.
Voilà, une opinion publique écossaise divisée sur la question de savoir s'il faudrait quitter le Royaume-Uni ou quitter l'Europe. Théo Manval le rappelait dans le reportage, hein, le premier référendum organisé en 2014 avait rejeté l'indépendance, 55% contre, 45% pour. Mais la perspective du Brexit change sans doute la donne aujourd'hui. Et les indépendantistes ne lâchent pas l'affaire, hein, ils misent désormais sur leurs propres élections, celles du Parlement écossais qui auront lieu au printemps prochain, en 2021. D'autant que, depuis décembre dernier, l'opinion s'est inversée sur la fameuse crête. Nicola Sturgeon, la première ministre, est plébiscitée pour sa bonne gestion de la crise du coronavirus, contrairement à Boris Johnson, et son parti est crédité de 55% de confiance. Ça va, ça vient, ce feuilleton-là n'est pas terminé. On en vient à cette date clé cette année, celle qui a gravé dans le marbre le Brexit, point de non-retour en quelque sorte. C'était le 31 janvier dernier. Même si beaucoup de choses restent encore à régler, c'était la date officielle des adieux à Bruxelles. Alors Isabelle Horry était allée quelques jours avant rencontrer les députés européens britanniques qui vivaient leur dernier jour au Parlement, entre tristesse et nostalgie pour les uns, satisfaction pour les autres. Voici son reportage.
Il était là en juillet 79 quand le Parlement européen élu au suffrage universel a siégé pour la première fois. 40 ans plus tard, les cheveux devenus blancs, le libéral-démocrate Bill Newton-Dunn est l'un des doyens de l'Assemblée. Et ces jours-ci, il s'ennuie.
Quand j'étais élu la première fois, j'étais jeune et j'ai imaginé peut-être que je vais être ici
pendant 10 ans, peut-être 15 ans si j'ai beaucoup de chance, mais c'est incroyable d'être ici toujours. Et dommage de devoir partir maintenant.
Chacun des 73 élus britanniques de Strasbourg vit l'approche du Brexit à sa manière. Toute une palette d'émotions. Longtemps, la verte Molly Scott-Cato a refusé d'y croire. Il a fallu la victoire de Boris Johnson aux législatives pour que ses derniers espoirs s'envolent.
J'ai le cœur brisé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai lutté contre le Brexit jusqu'à la fin, c'est-à-dire le 12 décembre dernier. Ça fait à peu près un mois. Je suis encore dans la colère.
Pour se remonter le moral, Molly Scott-Cato donne un hug, un câlin à toutes les personnes qu'elle rencontre. Quelques couloirs plus loin, dans un bureau déjà quasi vide, sa collègue travailliste Jude Kirton-Darling préfère s'occuper en bouclant ses derniers dossiers et en réglant des détails pratiques.
On a déjà vidé nos bureaux en masse, en pensant que Brexit passerait à la fin de mars. Donc on n'a pas grand-chose au niveau des objets. On a déjà vidé beaucoup de papiers. Donc il y a une dernière organisation de toutes les choses pratiques.
23 des élus appartiennent au Brexit Party de Nigel Farage, l'homme qui s'est battu pendant 20 ans pour que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Aujourd'hui, le sourire aux lèvres, il enchaîne les interviews, mais pour lui aussi, le moment est particulier.
Plus la montagne est imposante, plus c'est un défi d'arriver en haut. Mais quand vous y êtes, vous vous dites vraiment tout ça pour ça ? La victoire n'est jamais aussi douce que ce que vous vous étiez imaginé.
Farage n'a pas d'avenir dans la politique britannique. Il va regarder les conservateurs mettre en place son projet. Il va devenir commentateur à la télévision américaine. Pas aussi facile de rebondir pour tous ses collègues. Ils ont droit à une allocation chômage du Parlement, proportionnée au nombre d'années qu'ils y ont passé. Mais avant de penser à la suite, Jude Kirton-Darling veut faire une pause.
J'ai un petit garçon de 3 ans, donc pour un moment, je vais être maman. Je vais prendre un petit peu de repos parce que je crois qu'après un grand changement, il faut donner le corps, le temps pour revenir. Il faut donner l'esprit aussi le temps de revenir. On est triste et il faut avoir le temps pour faire le deuil.
Bien sûr, les Remainers, comme elle, espèrent tous qu'un jour, Londres reviendra toquer à la porte de l'Union. Bill Newton-Dunn veut croire que le Brexit sera un traumatisme nécessaire qui dissipera les illusions de la population.
C'est un peu comme la fin de l'Empire. À Londres, il se pense un grand pouvoir, mais c'est absolument pas vrai. C'est une psychologie qu'on doit changer. Peut-être c'est nécessaire d'avoir trauma. Maintenant, et après quelques ans, on va dire, oh, nous devons rejoindre.
In December 2017, the then UK Foreign Secretary Boris Johnson said that he had seen evidence.
Christian Allard, lui, est persuadé de revenir vite. Français, il a été élu sous la bannière du SNP, le parti indépendantiste écossais.
L'Écosse a voté pour rester dans l'Union européenne à 62%. Et j'ai fini un discours que j'ai fait ce matin en disant « nous nous retrouverons ».
Finalement, il y a presque autant de scénarios que de députés. Nigel Farage, par exemple, préfère penser que le Royaume-Uni va redevenir une grande puissance et il met en garde ses futurs ex-collègues des autres pays.
Écoutez plus les peuples d'Europe, parce que c'est très facile de passer son temps ici ou dans les capitales et de se convaincre que le projet européen, c'est l'avenir. Mais en fait, allez au centre de la France, rencontrez des gens ordinaires. Vous verrez que beaucoup d'entre eux ont les mêmes réserves que nous au Royaume-Uni. J'espère que le Brexit forcera l'Union européenne à se repenser.
Entre deux câlins et les interrogations sur son avenir, l'écologiste Molly Scott-Cato fait un tout autre rêve.
Je m'imagine de retour à Strasbourg en train de chanter l'hymne européen avec d'autres futurs ex-députés. J'ai 56 ans, mais j'espère pouvoir vivre assez longtemps pour voir cela.
Déni, optimiste, Brexiteur, Remainer, pour tous, une certitude en commun. Vendredi prochain, à minuit, une page de leur vie va se tourner.
Et la page s'est tournée, les députés mais aussi les ministres britanniques, les diplomates qui représentaient le Royaume-Uni au Conseil, tous ont quitté les institutions de Bruxelles et ce 31 janvier a marqué le début d'une nouvelle phase, une période de transition pendant laquelle les Britanniques conservent les mêmes droits qu'avant. Isabelle Horry nous avait expliqué tout ça.
Pour résumer, alors on peut dire que c'est la fin de l'acte 1. Le divorce avec la Grande-Bretagne est acté. Le traité de retrait qui va rentrer en vigueur le 31 janvier précise la manière dont on liquide les 47 années de vie commune, combien d'argent les Britanniques doivent encore, ce qui se passe pour les citoyens au Royaume-Uni, ce genre de choses. Mais maintenant, il faut déterminer quelle nouvelle relation le pays va avoir avec l'Union européenne. Et ça, c'est l'acte 2 du Brexit, une toute nouvelle négociation qui commence.
Avec une période de transition nécessaire.
Bah oui, pour laisser le temps à la négociation d'aboutir, pour que les citoyens et les entreprises aient le temps de se préparer. Ouais. Pendant cette période de transition, la Grande-Bretagne n'est plus membre, elle n'a plus de représentation à Bruxelles, mais elle conserve les droits et les devoirs d'un membre. En clair, rien ne change au quotidien pour les étudiants ou le commerce, par exemple. La période de transition, elle dure au moins jusqu'à la fin de cette année et en théorie, elle peut être prolongée de 2 ans.
Ces négociations qui vont démarrer, ce sera un travail colossal parce que ça touche tous les aspects de notre relation. On a les questions commerciales, les douanes, la pêche, les visas, etc.
Oui, ces négociations-là, elles s'annoncent plus compliquées que celles de l'acte 1, c'est vous dire. Alors, elles vont démarrer fin février ou début mars. D'ici là, les 27 restants doivent se mettre d'accord entre eux leur position, sur leurs priorités. Alors, on sait déjà que la pêche, par exemple, en fait partie, qu'ils veulent aussi éviter une concurrence déloyale des Britanniques sur le plan social ou sur les normes alimentaires. Ensuite, les 27 confieront un mandat de négociation à la Commission européenne, en l'occurrence à l'équipe de Michel Barnier. Bon, ce qui est certain déjà, c'est que de mars à décembre, à la fin de l'année, ça ne va pas suffire pour tout régler. Ouais. Et malgré tout ça, eh bien, Boris Johnson répète qu'il ne veut pas prolonger la période de transition, qu'il veut que ça s'arrête à la fin de l'année. Donc, il va falloir choisir les dossiers les plus importants. Et donc, c'est vraiment crucial cette période du mois de février où on va définir les priorités.
Voilà, et la Covid-19 n'a pas facilité les discussions ces derniers mois. La négociation est entrée dans le dur début juillet, il y a 3 semaines. Avec encore beaucoup de constats de divergence, les Européens se donnent jusqu'à octobre, dernier délai pour trouver un accord avec Londres. Le temps ensuite pour tous les membres de l'Union de ratifier cet accord avant le 31 décembre. Faute de quoi, ce sera un « no deal » qui sera douloureux pour les économies déjà fragilisées par la pandémie. Voilà pour ce grand retour sur le Brexit avec ses dates clés qui resteront dans l'histoire comme celle de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Autre pays, autre mœurs, on file au Mexique. Ou prendre un simple taxi quand on est une femme peut s'avérer très risqué.
Europe 1, les carnets du monde.
Et les carnets d'été, ce sont des grands reportages diffusés tout au long de l'année que Sophie Larmoyer vous propose de réécouter ensemble. Nous reparlons de la question du sort des femmes, mais cette fois-ci direction le Mexique.
Le Mexique, l'un des pires pays sans doute pour les femmes. Là-bas, on compte 9 féminicides par jour. L'espace public est le terrain d'attouchement permanent et il est courant notamment que les femmes disparaissent après être montées dans un taxi. Notre correspondante Laurence Cuvillier a rencontré à Mexico des victimes et puis des femmes bien décidées à se battre contre ce fléau. Voici le reportage qu'elle nous avait envoyé. C'était fin novembre, à la veille de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
Hola chicos, soy Osiris Méndez, tengo 19 años de edad.
C'est le témoignage glaçant d'une jeune fille qui sort du silence et qui raconte son calvaire sur YouTube. En juillet dernier, Osiris Méndez, 19 ans, serveuse dans un bar, prend un taxi pour rentrer chez elle après le travail.
Le chauffeur s'arrête et je m'apprête à descendre. Mais je me rends compte que la porte est bloquée par la sécurité enfant. Je ne peux pas ouvrir. Je vois alors que le chauffeur agrippe fortement son volant, respire profondément. Puis il se tourne vers moi et me dit « T'es foutu !» Et il se met à m'insulter. Il me dit que si je fais le moindre mouvement, le moindre cri, il va me mettre une balle dans la tête ou me tuer à coups de couteau et jeter mon corps au bord de la route.
En plein centre de Guadalajara, la deuxième plus grande ville du Mexique, le chauffeur fait vivre un supplice à Osiris derrière les vitres polarisées du véhicule.
Il m'agrippe de nouveau par la taille et me remet de force sur lui. Il recommence à me violer, à me frapper. J'avais très mal. J'étais complètement perdue. Il me disait qu'il allait appeler ses amis pour qu'ils profitent tous de moi.
En diffusant son récit face caméra sur Internet, Osiris donne une voix à toutes celles qui n'en sont pas sorties vivantes. Car au Mexique, des dizaines de chauffeurs sont en ce moment impliqués dans des enquêtes criminelles. Régulièrement, les femmes manifestent dans les rues de Mexico pour dénoncer cette violence. Et pas la peine de promener son micro longtemps pour trouver des victimes.
J'ai été agressée par un chauffeur de taxi. Il a voulu me violer. Par chance, un couple qui marchait dans la rue nous a vus et ils ont prévenu la police.
Quelques banderoles plus loin, Céleste, une jeune militante, prend la parole sur l'estrade. Qu'il n'y ait plus une seule femme assassinée. Un message plein de sens pour elle qui a vu la mort de près l'année dernière. À bord d'un taxi qui l'a ramené chez elle en banlieue de Mexico, un complice du chauffeur sort du coffre et lui met un pistolet sur la tempe. Il l'emmène de force dans un hôtel où ils lui font subir des sévices pendant plusieurs heures. Il menace de revenir la tuer si elle les dénonce. Céleste a dû changer d'adresse, mais elle ne s'est pas tue.
J'ai porté plainte,
mais ils finissent par nous faire sentir coupables. Comme ce policier qui m'a demandé pourquoi je n'ai pas crié, pourquoi je n'ai pas essayé de m'échapper. J'aurais pu essayer de me battre contre eux, effectivement. Mais ce que je voulais avant tout, c'était en sortir vivante. Ne pas être un nom de plus sur cette longue liste.
Le témoignage de Céleste sur les réseaux sociaux a permis d'arrêter le chauffeur et de retrouver plusieurs autres de ses victimes qui s'étaient murées dans le silence. Des jeunes femmes d'origine modeste pour la plupart.
Le taxi, c'est notre principal moyen de transport. Dans cette ville tellement grande, où vivent 20 millions d'habitants, nous n'avons que les transports publics pour nous déplacer. Et nous, les travailleurs à faible revenu, on habite tous à la périphérie de la ville. Alors on doit sortir de chez nous très tôt, vers 5 heures du matin, et on rentre tard, vers 9 heures ou 10 heures du soir.
Dans un pays où 98% des crimes ne sont jamais punis, la plupart des victimes se résignent et se retrouvent seules avec leur traumatisme. Grâce à des femmes comme Céleste et Osiris, le Mexique ouvre les yeux sur le problème et des milliers de femmes redoublent désormais de précautions en abordant un taxi. Mexico, Laurence Cuvillier, Europe 1.
98% des crimes qui restent impunis, terrible statistique. Évidemment, ça n'incite pas à porter plainte. Beaucoup de femmes gardent le silence, nous avait expliqué Laurence Cuvillier.
Oui, Sophie, on estime que seulement une femme sur 10 ose porter plainte contre son agresseur au Mexique. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Dans 60% des cas de viol, des proches de la victime sont impliqués. Dans d'autres, il y a la peur aussi de la complicité entre la police et les agresseurs qui agissent parfois en bandes organisées. Et puis, il y a aussi, comme l'évoque Céleste dans le reportage, ce qu'on appelle la revictimisation. Céleste, en fait, l'a elle-même vécu. C'est quand le policier, par exemple, qui a reçu sa plainte, lui a reproché de ne pas avoir crié ou de ne pas avoir essayé de s'échapper. En fait, c'est un processus au final très intimidant pour elle.
Avec tous les cas qui ont été médiatisés, les femmes redoublent désormais de prudence. On imagine à bord des taxis. Comment font-elles, ces Mexicaines, pour se protéger?
Mais Sophie, il y a des listes de recommandations qui circulent sur les réseaux sociaux à ce propos. Par exemple, systématiquement envoyer la photo de la plaque d'immatriculation du taxi à un proche, vérifier en temps réel que le taxi ne s'éloigne pas de l'itinéraire prévu, vérifier aussi en ouvrant et en fermant la porte de l'intérieur qu'il n'y a pas de sécurité enfant. Et alors, si ça a l'air de mal tourner, on recommande aux femmes de prendre les devants, exiger du chauffeur de pouvoir descendre immédiatement et s'il ne le fait pas, appeler la police, envoyer sa géolocalisation en temps réel. En tout cas, il n'est absolument pas recommandé d'en venir aux mains car les agresseurs pourraient avoir facilement l'avantage et ça pourrait précipiter une confrontation à l'issue incertaine.
Donc le facteur clé en cas de danger, évidemment, c'est de communiquer tous azimuts.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, les Mexicaines se sont organisées. Les réseaux d'entraide se sont consolidés, comme les groupes WhatsApp pour lancer les alertes. Une application a aussi été créée pour que les femmes puissent se prêter main forte entre elles, offrir un refuge temporaire, par exemple, quand l'une d'elles est agressée, ou proposer des trajets en groupe pour être moins vulnérables.
Il y a de quoi devenir complètement paranoïaque. On a l'impression, Laurence, que dans tout ça, les femmes en sont réduites à l'autodéfense. Et puis ce chiffre, 9 féminicides par jour en moyenne, c'est ahurissant. Que font les autorités pour affronter ce problème?
L'État est très clairement à la traîne sur le sujet, mais je suis allée essayer un dispositif nouveau mis en place par la mairie de Mexico depuis septembre. En fait, c'est un système qui concerne les taxis traditionnels, qui à Mexico sont de couleur rose et blanc. Une application permet de vérifier que le taxi qu'on aborde est bien en règle, qu'il ne s'agit pas d'un véhicule piraté. Et puis, il y a sur cette appli un petit bouton qui pourrait être bien utile, je vous propose d'écouter Eduardo Clark, le créateur de l'application Mi Taxi.
Si vous appuyez sur ce bouton-là, un décompte de 5 à 0 va commencer. Et à la fin de ce décompte, si vous n'avez pas annulé, un message va être envoyé à la police centrale de la ville. Grâce à ça, des unités sont alors mobilisées pour aller arrêter le véhicule. On a en main toutes les données, identité du chauffeur, modèle du véhicule. Et on suit depuis le centre de contrôle tous ces déplacements.
Alors Laurence, vous l'avez testé, est-ce que ça a marché ?
Oui, en fait j'étais avec Eduardo sur la banquette arrière et on a fait le test en temps réel. Les policiers ont mis exactement 9 minutes pour nous intercepter. Bon, ils faisaient un peu la tête qu'on les ait fait se déplacer pour rien, mais moi j'étais plutôt rassurée au final.
Et on la comprend, Laurence Cuvillier, elle qui vit à Mexico. À suivre, une jolie chronique de Joseph Chauvenec. Tiens, sur la place des femmes, dans la ville, justement.
Europe 1, les carnets du monde.
Et comme chaque dimanche, on boucle ces carnets d'été avec la chronique de Joseph Chauvenec.
C'est notre petit voyage en autistan avec l'ami Joseph, philosophe et saltimbanque de l'autisme, comme il se décrit lui-même volontiers. Cet hiver, alors qu'il était à Louvain, en Belgique, la visite d'un musée lui a inspiré quelques réflexions sur la place des femmes dans la ville. Écoutez ce qu'il nous racontait.
On entend souvent dire que les villes ont été pensées par et pour les hommes, donc pas par les femmes. Ouais. D'où d'ailleurs diverses initiatives pour compenser et corriger ce constat. Mmh. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité, parce qu'à travers le monde, il y a des espaces urbains féminins. À Téhéran, par exemple, il y a des pans de la ville qui sont pour les femmes, y compris par exemple des jardins publics dédiés. Mmh. Bon, par contre, il y a aussi beaucoup de lieux qui sont interdits aux femmes. Dans le monde anglo-saxon, on parle beaucoup ces derniers temps de l'espace de coworking et de networking féminin, en bon français, qu'on appelle The Wing.
Alors, je vais dire deux mots de The Wing. C'est un collectif, un club d'espace, de rencontres et de travail pensé par et pour les femmes, qui s'est développé depuis 2016 aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Voilà.
Oui, et qui se développe même très fortement. Mais on est encore très loin d'une ville féminine à part entière. Ouais. Pour ça, il faut aller à l'endroit où on s'y attendrait sans doute le moins, à savoir en Flandre, en Belgique. L'histoire commence à une époque reculée du Moyen-Âge, le XIIe siècle. À l'époque, l'expansion des ordres monastiques, mais aussi un contexte des massacres des croisades, ont facilité la fondation d'un système féminin très particulier, celui des béguines. Les béguines n'étaient pas des religieuses au sens strict, car elles ne faisaient pas de vœux et n'avaient normalement pas de relation d'obéissance envers une supérieure. Mais elles se réunissaient en communautés pieuses et contemplatives. Le mouvement s'est diffusé à une bonne partie de l'Europe, mais a disparu à cause des persécutions pendant le Moyen-Âge. Il n'y a qu'en Flandre, plus tolérante, que les béguines ont vécu jusqu'à ces dernières années.
Et alors, ces lieux où elles vivaient s'appellent des béguines. Guinage, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. La Flandre compte plusieurs de ses sites historiques, comme celui de Courtrai. Mais le lieu le plus mythique, le mieux préservé, c'est sans doute celui de Leuven, en français Louvain. Ouais. J'ai pu enfin m'y rendre samedi dernier. Et ça marque. Le grand béguinage, Beginhof en flamand de Leuven, est en fait une ville dans la ville. Mmh. Les béguines vivaient non pas dans un monastère, mais dans des maisons urbaines. Certes, c'est structuré autour d'une église, mais tous les corps de métier ou presque étaient représentés. Ouais. Avec beaucoup de béguines qui avaient des activités intellectuelles. D'une certaine façon que l'université de Leuven ait repris l'entretien du quartier, c'est logique, parce que l'université est une sorte d'héritière de ce mouvement-là.
Mais donc on peut visiter le béguinage de Louvain aujourd'hui ?
Oui, tout à fait, Sophie. Et pour moi, cette visite fut un choc. Cette sensation d'être subitement transporté des siècles en arrière, en plein Moyen-Âge. Alors certes, en Europe, il y a beaucoup de villes médiévales bien préservées, comme Prague. Mais c'est différent. À Prague, ce qui est conservé, ce sont les palais officiels, les églises, les demeures d'une élite restreinte. Ce qui était majestueux, pas tellement les vraies maisons de la vie quotidienne des gens, avec leur aménagement intérieur. Au grand béguinage de Leuven, le voyage mental est beaucoup plus fort. Quand on regarde attentivement, on peut voir les plafonds en bois peint, les fenêtres d'un type suranné, les petits chemins entre les potagers, etc. Une sensation Harry Potter. Il est d'ailleurs très possible que l'univers des béguines, des personnes socialement en décalage avec l'idéal de l'épouse et de la fée au foyer, ait été un univers autistique, comme celui de Harry Potter d'ailleurs. Et j'oubliais, Sophie, un facteur a renforcé mon vécu à cause d'un problème de train, je suis arrivée en retard, à la nuit tombée, d'où des effets extraordinaires d'éclairage faible et d'inconnu. Après tout, l'univers romanesque de Harry Potter est lui-même né à cause d'un gros retard du train. L'écrivaine étant dans ce train-là, elle a commencé l'écriture du livre justement pendant le retard.
Vous seriez en train de nous dire que la SNCF, par ses retards, œuvrerait peut-être à la créativité culturelle ?
En tout cas, je crois qu'elle nous fait voyager, mais pas toujours en sens où on l'entend.
Voilà, c'est avec Joseph qu'on se quitte. C'est la fin de ces carnets d'été. On vous en prépare d'autres pour dimanche prochain avec Marc Fréjean et Florence Gimalac, ma fine équipe. On se retrouve en août. D'ici là, portez-vous bien.